Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin?
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Et puisqu'il sommes 11h sur votre radio, vous comprenez que vous avez rendez-vous avec l'émission Club de la Presse, un nouveau regroupement politique mis en place pour la libération du Togo. Selon les initiateurs, 18 organisations se mettent ensemble pour créer un front de libération nationale. C'est le nom, bien sûr, donné à ce cadre des partis politiques au sein de la DMK et d'autres organisations ont porté hier sur les fronts baptismaux. Alors, ce nouveau cadre, je vais aborder le sujet avec mes confrères dans cette émission Club de la Presse, des confrères, bien sûr, en studio avec moi. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays, dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 11 mars 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakoutsa est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero Radio, La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga, près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Sans oublier que vous pouvez aussi nous capter sur des radios, nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo et aussi du continent africain, sans oublier le monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Ils commencent par s'installer. Jean-Baptiste Tissot, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour auditrices et auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent à travers les canaux numériques, à travers le monde entier et qui nous font des observations pertinentes. Et nous sommes à leur écoute et c'est de façon collégiale que nous allons participer à la construction de notre pays.
C'est vrai, c'est de façon collégiale que nous allons participer à la construction de notre pays, puisque vous le savez, le principe de cette émission, c'est de donner la parole à tout le monde, et les journalistes et les acteurs politiques, sans oublier aussi les auditeurs qui sont à la maison, dans leur service, et qui nous écoutent tout le temps, et puisque déjà à partir de midi, nous leur donnons la parole sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75, sans oublier notre numéro WhatsApp aussi 90 45 78 57. Ils réagissent souvent alors sur ces numéros et là nous tenons justement à leur remercier pour ces contributions si enrichissantes à ce débat et surtout cela fait quand même que nous animons des débats contre contradictoires. Il y a des gens quand même qui disent que les débats contradictoires, on n'en voit plus trop actuellement dans notre pays. Et Jean-Baptiste, est-ce que vous avez la même impression?
Oui, je crois que le pouvoir public est en train de tout mettre en œuvre pour que le débat contradictoire soit effacé. Des opinions au niveau des acteurs politiques, des organisations de la société civile et même au sein des médias. Parce que, vous savez, depuis un certain temps, vous avez vu l'acharnement tout autour des formations politiques, surtout quand elles veulent organiser des activités et politique, soit pour contester une situation ou bien soit pour appeler leurs militants à des activités politiques qui s'inscrivent dans la droite ligne de leur activité. Mais bon, je crois que tout ça là est en train d'être muselé dans notre pays. Les organisations de la société civile sont presque inexistantes parce que on leur coupe d'une façon ou d'une autre leur source de financement et aussi et surtout on les fragilise par tous les moyens, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne voit plus d'organisation de la société civile qui montre son indépendance et qui réellement travaille comme cela se doit. On n'en trouve plus pratiquement sur notre territoire. Et maintenant, venant aux médias, je crois que très peu de médias actuellement continuent de se livrer à des débats contradictoires parce que il y a le couperet de la hack qui est toujours là derrière les hommes de médias et aussi le pouvoir public qui souvent par des intimidations ou par comment l'appelle-t-on?
Le palais de l'autocensure.
Il y a bien sûr l'autocensure parce que aujourd'hui il est bien vrai, comme l'a dit ce philosophe Jean Kelevich, que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais aujourd'hui, si nous voulons vraiment construire une démocratie, on ne va pas dire toutes les vérités, mais il y a quand même certaines vérités qu'on doit dire pour pouvoir faire évoluer la société. Donc, si on doit toujours se réfugier derrière l'autocensure, je crois qu'il y a beaucoup de choses malveillantes, des choses anormales qui se passent dans notre pays et que si l'autocensure doit prévaloir, les médias, les hommes de médias seront obligés de dissimuler ces informations qui pourtant devraient quand même être ressorties pour que notre pays soit vraiment édifié, pour la population soit édifiée sur les actes répréhensibles qui se font ou bien qui ont cours dans le pays. Et c'est par cela que l'opinion se forme. Mais si on doit toujours craindre que tel acte qui est posé, on ne peut pas en parler, on doit faire des tabous, cela fait que nous allons évoluer dans une cité de borgnes ou d'aveugles, si on peut le dire ainsi, et notre pays ne sera pas vraiment une véritable démocratie.
Oui, mais Jean-Baptiste, c'est vrai que quand on parle du journaliste, il a aussi sa responsabilité face à l'information qu'il donne. C'est vrai, et au-delà de tout, le journaliste ne doit pas être un pyromane, c'est-à-dire quelqu'un qui doit apporter quand même des informations qui doivent embraser tout le pays. Au-delà de ses responsabilités, ou du moins face à ses responsabilités, on a le droit quand même de se faire peut-être des fois aussi ce que nous appelons l'autocensure.
Bon, au fait, si nous parlons de responsabilité du journaliste, il y a la responsabilité sociale du journaliste et dans cette dynamique, on dit que je l'ai effleuré entre-temps, que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais si vous estimez que une information que vous avez peut édifier, peut corriger quelque chose dans la cité, je ne pense pas qu'on puisse se réfugier derrière l'autocensure pour ne pas en parler.
D'accord, oui, ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Nous sommes rejoints par notre confrère Adam Adronou. Adam, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, pas la grâce.
D'accord, je vous vois essoufflé et aussi transpiré. Ça démontre combien de fois vous étiez occupé avant quand même de venir à l'émission.
Ouais, bon, c'est la course que j'ai menée parce que j'étais un peu pris.
Oui, mais justement, j'ai tout compris. Merci quand même d'avoir honoré et d'avoir honoré de votre présence dans cette émission. Alors, c'est vrai que nous commençons cette émission avec cette triste nouvelle. Et triste nouvelle que nous avons appris ce matin, vous parliez, Jean-Baptiste, vous parliez entre-temps lors des partis politiques, et il y a l'un de ces partis politiques qui est en deuil, c'est la CDPA, et Pascal Adoko, qui est le numéro 2 du parti, c'est-à-dire secrétaire général adjoint de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et n'est plus, nous avons appris tous ensemble l'information aujourd'hui, et Jean-Baptiste, ça c'est un digne fils que le Togo vient de perdre encore.
Oui, naturellement, c'est un digne fils que le Togo vient de perdre. Et vous savez, depuis un bon bout de temps, si je peut-être commence à partir de 2020, on a commencé par perdre des poids lourds de l'opposition togolaise, en commençant par d'abord, c'est en pleine période de Covid en 2020, je crois en avril, que le premier personnage qui a ouvert le bal, ce triste bal des décès d'acteurs politiques, c'est Edem Kodjo. Si j'ai ma mémoire est fidèle, il était décédé, je crois, en avril 2020. Et un mois plus tard, le 30 mai, c'est Maître Abouibo, le chantre de la démocratie togolaise, qui a suivi ce même sort. Et après lui, d'autres acteurs que notre pays continue de perdre jusqu'à ce matin où nous avons été réveillés par cette triste nouvelle du décès de Pascal Adoko, qui est donc le numéro 2 de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, un homme qui, depuis, disons, 90, les années 90, où le vent de la démocratie a commencé par souffler dans notre pays, il a été aux côtés de cette lutte avec la CDPA et lui aussi l'a fait ce qu'il pourrait faire pour pouvoir faire avancer le processus démocratique dans notre pays. Et peut-être ce qu'il faut saluer encore chez lui, c'est que il est resté constant, parce que il n'a pas été un acteur politique transhumant comme on l'a vu au sein de certaines formations politiques où du jour au lendemain, un acteur se trouve dans tel parti politique, un an, deux ans après, un petit pépin arrive et puis patatras. C'est des défections qu'on a au sein de ces formations politiques. Je crois que lui, il est resté constant, égal à lui-même durant presque 30 ans de lutte. Et c'est ça vraiment à saluer, sa constance et puis sa clairvoyance dans la lutte politique au niveau du Togo.
Madame, c'est vrai, à 68 ans, Pascal Adoko est parti. Et il y a ici Lomé qui nous informe que Pascal Adoko succombe à un malaise sur la route. Justement, quand on prend ces informations, et on se dit, mais écoutez, pour ce qui concerne surtout notre santé, il est très important quand même de prendre soin de notre santé.
Oui, on ne le dira jamais assez. Et c'est vrai, lorsque survient... En tout cas, ces cas-là, c'est ce qui nous rappelle en réalité ce qu'on nous dit tous les jours. Parce que vous savez, c'est quand même rare lorsque nous avons le souffle de vie. On a comme l'impression tout est dicté par nous-mêmes. On oublie carrément que nous fonctionnons avec des organes dont il faut toujours prendre soin. Et surtout, le bilan sanitaire, puisque c'est ce qui revient très souvent. Nous n'avons pas l'habitude de le faire et on saute là-dessus, on va. Or, ce sont des prévisions, il faut également planifier, en tout cas la santé, dans nos activités quotidiennes. C'est ce qu'on ne fait pas assez. Mais au-delà de tout, malgré les précautions, l'approche précautionneuse qu'on puisse afficher, de toutes les façons, si c'est le temps de Dieu qui est arrivé, vous ne pouvez rien. Ça peut passer par, en tout cas, toutes les approches. Donc, je me dis, c'est l'une des figures qu'on a connues. Et l'histoire également nous a démontré qu'il fait partie de cette génération-là qui a vu inaugurer l'avènement démocratique au Togo. Aujourd'hui, il s'en est allé. Et je pense que, au-delà des leçons à tirer, vous avez parlé du cas sanitaire qui, de mon point de vue, est une approche très importante qui devait donc attirer notre attention. Mais tout compte fait, je pense que tout ne dépend pas de nous, tout dépend également de Dieu. Donc menons notre vie en tenant compte de ces approches-là, mais prenons quand même un soin de notre santé pour que, si évidemment, on pouvait donc éviter un temps soit peu ces malheurs-là liés au fait qu'on a pris soin de notre santé, qu'on puisse le faire, mais si c'est la divinité qui le demande, on n'a pas de choix.
D'accord. Oui, mais Jean-Baptiste, est-ce que pas à pas, notre scène politique ne se vide pas de ses hommes politiques?
Oui, justement, je l'ai effleuré au début dans mon développement que depuis 2020, donc on a commencé par perdre des acteurs politiques qui ont été aux manœuvres depuis 90. 30 ans après, c'est comme si réellement il y a un vent qui souffle au sein de la classe politique togolaise et donc ceux qui ont été au devant de la scène depuis le soulèvement du 5 octobre 90 et qui a conduit à la conférence nationale de 91 et jusqu'au multipartisme avec la charte des partis politiques qui a été adoptée en avril 91, si ma mémoire est bonne. Donc, à partir de ces développements que nous avons eus dès début 90, aujourd'hui, on constate malheureusement que ceux qui ont été au devant sont en train de nous quitter l'un après l'autre. Donc, c'est vraiment le lieu quand même à la classe politique, de dire à la classe politique que vraiment il y a quand même nécessité de donner un souffle nouveau à cette lutte qui a duré pendant déjà 30 ans, ou bien 35 ans, bientôt 35 ans, nous sommes en 2025, donc quand nous quittons 90 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 35 ans de lutte politique. Et avec un résultat mitigé, parce que aujourd'hui, quand nous analysons les derniers développements de l'actualité politique dans notre pays, on a l'impression que la lutte n'a pas réellement donné vraiment de résultats escomptés, parce que l'élan qui était dans les années 90, c'est de parvenir à une alternance politique à la tête du pays. Mais aujourd'hui, force est de constater malheureusement que cette alternance n'est pas encore une réalité dans notre pays. Et donc, c'est ça qui fait décourager un peu la population togolaise, parce que une lutte que vous avez menée pendant 35 ans et on n'a pas atteint l'objectif. Je crois qu'il faut repenser véritablement de fond en comble cette lutte et revoir les stratégies de lutte pour voir si en travaillant autrement, en agissant autrement, l'objectif que le peuple attend, qui est vraiment cette alternance, puisse être une réalité dans notre pays.
D'accord, vous faites bien la transition. J'en parlais déjà au début alors de cette émission avec mes mots introductifs. Il y a un front qui est mis en place alors pour la libération du Togo, c'est ce qui est dit par les initiateurs. Et le front, c'est le Front de Libération Nationale. Et c'est les partis politiques au sein de la DMK et aussi des organisations de la société civile qui se réunissent pour créer alors ce front. Il est dit que ce n'est pas un front de guerre, mais c'est un front d'amour, un front pour la libération alors du Togo. Aujourd'hui, Adam, la question est de savoir, oui, on a connu une charte déjà entre-temps avec des partis comme l'ANC et aussi l'FDR et également Front Togo Debout, Front Citoyen Togo Debout. Et Adam, finalement, on se dit, quelle est la chance que ces organisations ou ces fronts qui se créent ont pour changer quelque chose?
Non, vous savez, moi je pense que d'abord, il faudrait quand même dissocier, même si la société civile, puisque vous avez parlé de Front Citoyen, qui pour moi n'est pas de même ma politique, mais ce sont des acteurs de la société civile qui, lorsqu'ils s'entrecoupent, on entrecoupe un peu les objectifs, semblent être liés, en tout cas par leur contenu également. Mais moi, je me dis que en réalité, et d'abord pour, en tout cas, prendre un peu le compte-pied d'un aspect qu'abordait tout à l'heure Jean-Baptiste en parlant donc de l'avènement démocratique. Est-ce que l'avènement démocratique au Togo, puisque c'est un vent qui a soufflé sur tout le continent africain, il y avait l'objectif, n'était pas fondamentalement seulement d'arriver à une alternance. D'abord, nous avons connu le multipartisme, nous avons connu également la floraison, en tout cas, ou la libération de l'expression avec tout un pléthore de journaux que nous avons connus, et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, et tant d'autres choses également. Et lorsqu'on limite, en tout cas, ce vocable-là sur seulement l'alternance, déjà, vous convenez qu'avec moi que c'est ce qui était donc les germes qui ont conduit à la non-atteinte donc de certains objectifs. Et donc, pour ramener également cet aspect-là, moi, je me disais qu'en réalité, lorsqu'on fait l'état des lieux, on devait donc tirer profit d'un certain nombre d'échecs et pouvoir donc tisser ou replacer la nouvelle lutte entre griffes sur les bons rails, ce qui n'est pas le cas, parce que lorsque vous prenez, aujourd'hui, on parle de libération du Togo. Or, moi, je sais, lorsque vous évaluez un peu les apports, que ce soit bien les opinions, etc., là, nous avons des mécanismes de pouvoir dans les évaluer, et l'un de ces mécanismes-là, c'est justement les élections, etc. Ça voudrait dire que, même si certains expriment qu'il y a d'autres pesanteurs qui ne permettent pas peut-être de pouvoir, en tout cas, prendre en compte cette évaluation à la hauteur des souhaits, nous savons véritablement que l'opinion est assez divisée sur certaines approches données. Et mais lorsque vous parlez donc de libération, de quelle libération il est question, est-ce que cette libération-là, les Togolais, est prise dans leur globalité, épouse cette idéologie? Et donc, directement, lorsque vous posez les bases, vous vous enfoncez, vous regardez un peu, en tout cas, le statut et le contenu de ce qui est donc mis en avant, vous convenez qu'avec moi, à partir du moment où vous n'avez pas la quasi-majorité de la population qui suit cette lettre, et c'est de bonne guerre dans la mesure où vous divisez l'opinion directement, les germes de la non-réussite donc de ces approches mises en place sont déjà là. Donc, c'est ce qui conduit, en fait, que moi, je suis toujours sceptique lorsqu'on pose ce débat-là, parce que il est donc, il nourrit tout son sens sur des aspects que ne partage pas entièrement donc la quasi-majorité des Togolais.
Oui, mais Jean-Baptiste, Vous, vous trouvez déjà les moyens dont pourrait disposer ce front-là pour arriver à son objectif, c'est-à-dire la libération du Togo, puisque c'est ces derniers temps on écoute parler alors de cette question de libération du Togo. Finalement, est-ce que ça ne devient pas un vœu pieux, là?
Bien, je crois qu'il faut corriger d'abord un aspect du développement de mon ami Adam qui parlait de la fréquence des élections. Je crois que une démocratie ne se mesure pas à la fréquence des élections. On peut avoir beau faire des élections régulièrement, mais ne pas être dans une démocratie. Et c'est le cas de notre pays parce que quand on fait une élection, il y a des principes démocratiques qu'il faut respecter. Mais quand on fait des élections pour la forme, alors que une élection est quand même censée apporter un souffle nouveau à la vie d'une nation. Mais quand c'est les mêmes résultats auxquels on attend, on arrive à des élections, je crois que ces élections n'ont aucun sens. Une démocratie rime avec le principe fondamental qu'est l'alternance. On ne peut pas parler de démocratie sans alternance. Ça n'existe nulle part dans aucun pays. Donc, si aujourd'hui on veut, on va se réclamer être dans une démocratie, la démocratie rime avec l'alternance que nous n'avons pas dans notre pays. Donc, c'est une triste réalité.
Et maintenant, ma question.
Revenant à votre question concernant les moyens dont disposent ces mouvements pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Bon, au fait, la question mérite d'être posée à ceux qui ont créé ces chartes et puis ces fronts. C'est à eux de répondre véritablement des moyens dont on dispose. Mais en tant qu'observateur de la chaîne...
C'est vrai qu'hier, il parlait alors du dialogue, de la sensibilisation pour y arriver. Mais est-ce que ce ne sont pas des moyens qui ont été déjà utilisés et qui n'ont pas donné vraiment des résultats probants?
Au fait, sensibilisation, oui, mais c'est que dans notre pays, les acteurs politiques, surtout de l'opposition, ne disposent pas véritablement de moyens pour pouvoir sensibiliser la population. Parce que vous savez, quand vous suivez ou bien vous participez, par exemple, à une campagne électorale, vous voyez les différents messages que les candidats livrent aux populations. Et quand on observe les résultats, parfois, ces résultats ne traduisent pas réellement les messages ou bien les projets de société que les différents candidats ont eu à distiller au sein de l'opinion. Les résultats ne traduisent pas cela. Mais au-delà de ça, c'est que cela pose aujourd'hui le problème de l'éducation politique de notre population. On a l'impression que, malheureusement, que la population n'est pas réceptive au message de campagne. Le seul message que la population écoute, et peut-être les auditeurs peuvent m'excuser, parfois c'est le message du matériel. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous nous donnez après vos messages, vos bons discours, vos idées que vous avez exprimées devant nous, qu'est-ce que vous nous donnez concrètement comme matériel? Et c'est ça qui aujourd'hui gangrène l'opinion togolaise. Alors que normalement, si on doit s'en tenir au test de loi, on ne peut, même si tu es un acteur politique, tu ne peux pas échanger la voix d'un électeur contre un matériel, encore moins contre de l'argent. C'est ce qui, puisque les tests, nos tests, le code électoral et même le code pénal punit sévèrement toutes ces choses-là, mais curieusement, c'est ce qui est court dans notre pays. On n'a pas un électorat qui est vraiment édifié sur le sens d'un vote. Si vous connaissez le sens réel d'un vote, on peut vous donner 1 milliard, vous n'allez pas voter pour un parti ou bien une personne, un candidat, parce qu'il vous a donné de l'argent. Si vous connaissez bien la valeur du bulletin que vous glissez dans l'urne, quel que soit ce qu'on va vous donner, vous n'allez pas faire ce geste-là. Mais malheureusement, contre un t-shirt ou bien un billet de 2000 flambants neufs ou bien 1000 francs, les gens se laissent aller. Et ça prouve aujourd'hui un réel débat que la population n'a pas encore la maturité requise pour savoir ce qu'on appelle un vote et en avant les dégâts. Mais doublé de cela, il y a aussi la manipulation des résultats. auquel nous assistons malheureusement. Les agents électoraux, les présidents de bureaux de vote, et les secrétaires, les secrétaires de bureaux de vote, tout ce beau monde facilement arrive à manipuler les procès verbaux, alors que c'est des comportements qui sont répréhensibles, punis par le code électoral et puis aujourd'hui le code pénal, mais personne ne se fie à ces tests. D'accord. Et même vous pouvez même, on a eu des cas où on a appelé devant nous des présidents de CELI pour dénoncer les cas de bourrage d'urnes, mais c'est ces personnalités qui sont vraiment censées sévir les forces de l'ordre qu'on avait interpellé même dans les centres de vote. Ils sont restés de marbre parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas dans ces bureaux de vote pour cela. D'accord. Donc, c'est des comportements auxquels aujourd'hui on doit lutter pour si réellement on doit avoir un sens au vote dans notre pays.
D'accord, merci Jean-Baptiste. Oui, Adam, oui, des organisations ou des fronts, ou des coalitions se font aujourd'hui et se défont également demain. Et souvent, l'objectif, quand ils annoncent, même d'ailleurs, leur objectif, c'est pour l'alternance, la libération du Togo et tout. Mais finalement, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que au fin fond, quand on voit quand même que cet objectif n'est jamais atteint, la question est de savoir et qu'est-ce qui ne marche pas. Et est-ce que vous avez aussi l'impression que la population s'implique alors dans ces fronts qui se créent?
Donc, vous savez, l'environnement politique a du fait de contradictions. Et moi, je pense que c'est ce qui aussi fait la vitalité d'une démocratie. Lorsque vous avez déjà des mouvements, déjà saluant le fait que nous avons un environnement où on autorise, en tout cas, des expressions contradictoires ou pratiquement amenées à d'autres alternatives qui puissent véritablement rendre davantage beau et vital donc notre démocratie. C'est déjà un pas en avant. Mais l'autre approche pour donc répondre à cette question du fait que il y a des coalitions etc qui se font et se défont. En réalité, moi je pense que la plupart, en tout cas des organisations qui se créent sont proratant en réalité de ce qui porte donc ces projets-là. Aujourd'hui, l'environnement politique a essayé d'évoluer. On n'est plus dans les années, en tout cas 90, où l'on était encore dans l'apprentissage. Aujourd'hui, les gens ont compris beaucoup de choses. Et donc, en réponse à certaines réactions de la population, c'est justement le fait que les acteurs politiques également ne sont pas restés constants. Ça a été donc évolutif et donc a amené la population à pouvoir faire ressurgir d'autres valeurs, même si les gens le considèrent comme donc étant donc des passifs, parce que quelque part, il faut comprendre que le jeu politique est également nourri par la question également financière. Et justement, c'est en cela que l'État lui-même a mis en place donc des alternatives pour, en tout cas, évaluer la crédibilité d'une élection. Et donc, vous savez, lorsque nous parlons de droit, ce sont les preuves en réalité. Et dont les acteurs politiques ont, en tout cas, la latitude et l'opportunité de pouvoir donc faire confronter la légalité d'une élection, d'un vote, par des éléments de preuve qui, malheureusement, la plupart du temps, lorsqu'ils sont brandis, je pense que ces alternatives mises en place pour, en tout cas, juger de l'efficacité d'une élection, et c'est véritablement également de se prononcer sur ces questions-là. Et moi, je me dis, vous savez, on ne peut pas avoir une constance, même dans les démocraties célébrées, ça n'a jamais été le cas. Et en matière d'élection, il peut y avoir des maladresses, en tout cas. Mais quand même, je pense qu'il y a des seuils autorisés qui puissent donc permettre à ce qu'on l'on puisse dire que, voilà, ces élections sont crédibles ou pas. Mais, qu'à cela ne tienne, je pense que il appartient aux acteurs politiques, puisque aujourd'hui le jeu politique est pratiquement une science. Et je pense que ceux qui mènent cette science-là essaient donc de pouvoir faire intervenir des alternatives qui puissent donc leur permettre de convaincre à la grande majorité de la population. Et c'est justement le fait de pouvoir trouver les bons passerelles pour convaincre cette population qui font que le message véhiculé et l'approche nourrie par ces coalitions-là puissent être à l'avantage de la population ou pratiquement que leur perception puisse être acceptée au sein de la population. Mais à partir du moment où ces éléments-là ne sont pas mis en place, vous convenez avec moi qu'il est très difficile de pouvoir engranger, en tout cas, une bonne proportion de la population à pouvoir avoir cette même perception que vous et à comprendre en réalité les objectifs qui, de mon point de vue, pour la plupart du temps, sont aux antipodes,
naturellement de ce que la population veut. Puisque moi, ce que j'ai toujours...
Il faut se poser la question de savoir et qu'est-ce que la population veut.
Oui, vous savez, moi je pense que nous, dans notre environnement, le mal est que... et ça, je l'ai constaté la quasi majoritairement au niveau de l'opposition, c'est qu'on a toujours pris les mêmes approches à la naissance de la démocratie pour dire que, parce que lorsque vous attendez certains opposants dire voilà, ce que nous disons, l'opinion là est pratiquement partagée, sans même aller auprès de la population, elle est partagée par cette population-là. Or, je le disais tantôt, la population aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque nous prenons les années 90, nous n'avons pas cette proportion-là qui était cultivée ou qui était instruite pour véritablement juger de ce que vous venez donc leur dire. Aujourd'hui, c'est une population qui est assez mature et comprend en réalité les règles du jeu politique. Et lorsque vous ne jugez pas de cette approche qui a changé aujourd'hui et comprendre que vous avez en face une nouvelle population qui a plus d'exigences, une nouvelle population qui veut véritablement que vous lui apportez des choses qui vont dans l'intérêt général, je pense que vous faussez directement la direction de cette approche-là. Et ça, moi, je pense que fondamentalement, c'est cet aspect-là que la classe de l'opposition n'a pas saisi pour comprendre en réalité qu'elle est en face d'une population de plus en plus exigeante sur certaines approches que de pouvoir rester que voilà, à partir du moment où ce n'est pas l'alternance, il faudrait quand même que la population, plus dans sa globalité, même sans l'informer, accepte. Aujourd'hui, vous convenez qu'avec moi que l'environnement dans lequel nous vivons, surtout au Togo, comparé à d'autres ceux où les gens n'ont pas cette approche-là, s'il était donné à une frange partie de la population de choisir, te dira qu'il veut véritablement choisir donc la paix, en dépit de ce qu'on lui propose, en vous disant que voilà, venez prendre ce que nous disons, même si c'est un saut dans l'inconnu venu. Moi, je pense que c'est tout ceci qu'on devait donc... L'opposition devait donc mûrir et savoir, en tout cas façonner, en tout cas le discours qu'il faut donc servir à la population.
D'accord, oui, justement parlant du discours, aujourd'hui c'est vrai que ces fronts qui se créent ou ces coalitions qui se créent, à un moment donné, parlent plus alors de la mobilisation de la population, mais cette mobilisation peine à prendre. Jean-Baptiste, est-ce que c'est parce que le discours n'est pas bien cerné? Ou bien le message qu'on envoie n'est pas bien reçu.
Bon, je crois que le discours, le message que les acteurs politiques envoient au sein de l'opinion, au fait, est entendu, analysé. Parce qu'aujourd'hui, on a une population, quoi qu'on dise, comprend un peu et le jeu politique. Mais le problème fondamental, il y a l'immaturité politique de certains acteurs même qui incarnent l'opposition. L'immaturité politique, parce qu'aujourd'hui...
Vous parlez de l'immaturité.
Oui, l'immaturité, hein. Parce que la politique, c'est une science. Et il faut connaître cette science-là pour bien l'appliquer.
Et c'est des gens qui ont fait assez de temps quand même en politique. Il y a des gens qui sont là déjà trois décennies.
Bien sûr, trois décennies.
On ne va pas parler de l'immaturité chez eux.
Bien sûr, je pèse bien mes mots. Je parle de l'immaturité parce que quand vous analysez le cours de l'évolution de notre processus démocratique, et vous allez comprendre que quand je parle de l'immaturité politique, je n'ai pas fait un lapsus.
Parce que c'est juste... Mais puisque vous insistez là-dessus,
bien sûr,
mais pourquoi vous dites qu'il y a une immaturité politique?
C'est ça, puisque d'abord, quand vous analysez le comportement des acteurs politiques, on peut parler facilement de l'immaturité dans la mesure où les coups bas qui ont jalonné le processus démocratique au sein de l'opposition, je parle bien de l'opposition, les coups bas, les médisances qui ont jalonné le processus, on comprend, si on s'en tient à ça, on peut dire qu'il y a beaucoup d'immaturité et surtout l'ego qui a caractérisé un certain nombre d'acteurs politiques. Si ce n'est pas moi, ça ne peut pas être mon collègue, mon voisin. Donc ça aussi a gangréné la lutte politique pendant plusieurs années, plusieurs décennies. L'ego est un élément important qu'il faut quand même corriger au sein de l'opposition togolaise. Puisque quand nous faisons un brainstorming vers les autres pays de la sous-région, Et l'alternance qu'on a pu réaliser dans beaucoup de pays, notamment le Niger, le Bénin, le Ghana, on n'en parle pas, hein, c'est des grands modèles de démocratie. Je prends les pays francophones, le Bénin, le Niger, le Mali, le Sénégal, ces quatre pays, on a vu que l'alternance a été plus ou moins réussie dans ces quatre pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Facilement, c'est parce que les acteurs, quand même, ont su mettre l'intérêt de la population au devant. Ça fait que l'alternance a été une réalité dans ces pays. Et au-delà de l'ego, quand je parle de l'immaturité, c'est un aspect ça. Et aujourd'hui, le jeu que l'autre là, par exemple, a joué, et quand je prends la Gambie avec Yahya Jammeh, et l'opposant historique qui devait succéder à Yahya Jammeh, c'était, bon, j'ai oublié son nom, mais c'est son secrétaire général qui a pris la relève parce que l'autre était ambassadeur. Autre exemple, on prend le cas de Sonko au Sénégal. Sonko était le meneur de la lutte, mais arrivé à un certain moment quand il était en prison, c'est son secrétaire général qui est Diomaye Faye qui a pris la relève et puis aux élections présidentielles, il a été positionné. Mais ici, l'ego fait que certains acteurs politiques se disent ils sont incontournables dans la lutte. Et c'est ça aussi qui a été un élément marquant de notre politique d'accord, au sein de l'opposition. C'est pourquoi j'ai parlé de l'immaturité.
D'accord. Sinon, Adam, est-ce que ce que Jean-Baptiste évoque n'est pas aussi très important, très délicat? Il était enseigné que hier, c'est vrai, on a posé la question à ces acteurs qui ont créé le nouveau front. Et pour savoir, mais comment se fait-il que déjà il y a une charte qui est là et que vous ne vous associez pas alors à cette charte pour que, du moins, puisque vous parlez alors de la même lutte, vous faites partie alors de l'opposition, vous parlez de la même lutte et donc ils ont donné aussi leur raison. Mais est-ce que justement ces différents facteurs n'ont pas faibli aussi la classe politique, surtout de l'opposition?
Oui, mais bien évidemment, et je suis content que Jean-Baptiste puisse quand même le relever, hein, ce qui était un peu en contradiction avec les arguments qu'il avançait, tout comme si on était pratiquement sur un terrain où tout tombait du ciel, et qu'on devait donc avaler. Hein. Donc c'est un aspect très très important. Et cet aspect-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas changé. Je le disais, parce que lorsque vous le prenez, quand je parle de maladresse, en réalité, c'est regroupant tous ces aspects-là qui n'ont pas jusqu'au jour d'aujourd'hui changé. Et on peut encore en rajouter, hein, à sa société. Et je pense que l'immaturité, c'est une question d'immaturité. Je n'y crois pas, parce que vous savez, il y a la maturité, il y a également l'expérience, mais vous prenez des gens qui ont commencé une lutte depuis près de 30 ans. Et je pense que à partir du moment où vous partagez un même idéal, peu importe, mais justement c'est cette question d'ego qui amène, hein, ces acteurs-là à ne pas s'entendre sur l'essentiel. Et justement, la question de l'intérêt général n'est pas mise en avant. Parce que si tel est que l'intérêt général est mis en avant, comme nous le constatons souvent lorsque vous prenez, par exemple, la mouvance présidentielle, je pense que l'opposition pouvait véritablement donc d'abord s'unir, parce que quelque part, lorsque vous faites les analyses après les élections, ceux qui ont compris se sont mis dans des regroupements, vous voyez, même si, en tout cas, la proportion engrangée ne permet pas véritablement de changer quoi que ce soit, on sent que cela a joué mécaniquement. Et donc, je pense que il faudrait quand même, c'est pourquoi ceux qui estiment que l'environnement togolais devait être refait avec de nouveaux acteurs politiques ont plus ou moins raison, puisque nous voyons que ce sont les mêmes approches qui sont toujours implémentées, et naturellement lorsque vous faites la même chose chaque fois, vous ne pouvez que récolter en tout cas la même dividende. Et malheureusement, lorsque moi je suis très surpris lorsque à la fin des élections on essaie de pouvoir donc évaluer les passifs et les actifs liés donc à certaines élections, je pense que l'opposition n'arrive pas véritablement à faire une autocritique assez profonde pour lui permettre de pouvoir donc se repositionner. Donc malheureusement, on implémente les mêmes approches et ne soyez pas surpris d'avoir les mêmes conséquences.
D'accord. On va quitter le sujet, mais on ouais. s'intéresse et on reste toujours dans la politique. On s'intéresse au Sénat, le Sénat qui est mis en place et que déjà la session de droit a eu lieu le jeudi dernier. Mais tous ensemble, nous avons suivi l'information. C'est vrai, il y a des journaux qui sont revenus sur cette question même d'ailleurs de 5e République et également du Sénat. Et le journal Le Médium, est revenu là-dessus et le journal écrit politique, l'importance d'adapter les constitutions aux réalités africaines. Le journal L'Éveil de la Nation, de Sam Diobon, qui écrit nomination des 20 sénateurs, Fong Yassingbe, champion de l'ouverture et de l'inclusion. Oui, autre journal, c'est Corps diplomatique. Jean-Baptiste, vous titrez sur le sujet par rapport surtout aux sénateurs. Vous vous intéressez à l'un de ces sénateurs et vous écrivez « La nomination d'Inoussa Bourahima en tant que sénateur fait remuer Monseigneur Poudreau dans sa tombe. » Alors, en quoi cela pourra faire remuer le Monseigneur dans sa tombe?
Oui, Pascal. C'est un secret de Polichinelle, hein. Donc depuis une semaine, depuis mercredi dernier, donc le chef de l'État, Fong Yassingbe, a procédé à la nomination des 20 sénateurs restants qui devraient compléter la liste des 41 qui ont été précédemment élus le 15 février. Et donc parmi les 20 qui ont été nommés par le chef de l'État, figure en bonne place Monsieur Inoussa Bourahima, et l'homme, il n'est plus à présenter au public togolais. Il est le président de l'Union musulmane du Togo, donc une organisation religieuse parmi tant d'autres au Togo. Et donc, nous avons titré justement que sa nomination en tant que sénateur va faire remuer Monseigneur Poudreau dans sa tombe, parce que vous savez que depuis un certain temps, surtout avec le début du processus démocratique dans notre pays, la conférence des évêques du Togo a aussi joué sa partition et en sortant périodiquement des déclarations. Et ces déclarations sont souvent très mal vues par le pouvoir en place. Et notamment celui qui a incarné cette conférence des évêques pendant plusieurs années en la personne de feu Monseigneur Poudreau. Et donc ces sorties sont aussi mal accueillies par le pouvoir en place, jusqu'à surtout le point culminant, c'était son accompagnement Agbeyome Kodjo lors des présidentielles de 2020, où il a été aux côtés de cet acteur politique jusqu'aux élections de 2020. Et donc, beaucoup sont ceux-là du côté du pouvoir qui digèrent mal le fait que Monseigneur Poudreau soit aux côtés d'un acteur politique pour le processus démocratique. Et de temps à autre, tout le monde est témoin des critiques acerbes que certains ministres du régime, notamment surtout les ministres de l'administration territoriale, qui est le ministère tutelle des églises du Togo. Donc ce ministère, les différents locataires de ce ministère, en passant par Pascal Bojona, Gilbert Bawara, Payadoua Boupessi et le tonitruant Christian Trimois aussi, qui fut entre-temps porte-parole du gouvernement. Tous ces ministres n'ont pas quand même digéré les sorties de Monseigneur Poudreau et surtout aussi de la conférence des évêques du Togo. Et donc, parce que pour eux, l'Église est apolitique et doit rester neutre. C'est ce que ces ministres soutiennent. Donc, chose curieuse, et donc il y a une semaine, tout le peuple togolais, l'opinion nationale et internationale a été témoin donc de cette nomination de Monsieur Bourahima Inoussa, qui n'est pas, vous le savez, n'est pas un imam qui est retranché dans sa mosquée dans un Far West, mais le numéro un même de l'église musulmane du Togo, qui a été déniché par Fonia Singbe pour être nommé en tant que sénateur, donc un poste qui est éminemment politique. Et donc, nous avons fait au niveau de notre rédaction le parallèle entre cette nomination de Inoussa Bouraïma en tant que sénateur et les sorties de l'église catholique qui ont été mal digérées par le régime en place, pour dire que est-ce qu'il n'y a pas politique de deux poids, deux mesures vis-à-vis de ces églises? L'une est adoubée et l'autre est mal vue par le parti au pouvoir. Et donc c'est ce que nous avons relayé à travers cet article que nous avons publié.
Adam, est-ce qu'il y a lieu vraiment de faire ce parallèle aujourd'hui?
Vous savez, moi je pense que on ne doit pas faire des opinions, des règles en soi. Je pense que ces opinions sont pour la plupart avancées en dépit des règles qui, en tout cas, structurent ou régissent le fonctionnement de certaines institutions, y compris la Cour, y compris le Sénat. Et moi, je pense qu'il a fait un développement, je dis, voilà pourquoi je parle d'opinion, puisque ce développement ne nous a dit nulle part que voilà ce que prévoient donc les tests. Et justement, lorsqu'on fait donc des analyses sans tenir compte des tests qui organisent ces institutions-là, je pense qu'il est très difficile de pouvoir donc l'appréhender dans sa réelle valeur. Puisque de toutes les façons, on peut dire, voilà, Inoussa Bouraïma, nous savons véritablement qu'il fait partie de l'Union musulmane, mais on a fait le parallèle à ce qu'il vient de dire lorsque les gens prennent des positions directement politiques. Or, vous êtes dans des prix-là parce que ce qu'il a dit également, vous en souvient que le Meng Quadro était le coordonnateur, sinon le président du ACR, qui était une institution également hautement politique par le passé. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous prenons dans ces aspects, or à l'époque, le ACR, comme partout ailleurs, c'était donc des prélats qui étaient appelés à le dire parce que nous venons mettre une fondation. Et on juge dans ces prélats comme étant donc des impartiaux qui puissent véritablement donc coordonner ou être le point de repère sur plusieurs tendances données. Donc à l'époque, même si c'est une institution hautement politique, l'on s'était donc accordé à ce qu'on puisse donc avoir des gens assez impartiaux pour en tout cas fédérer les opinions. Mais je ne pense pas que ce soit la même approche qu'on puisse donc parler donc du Sénat qui est mis en place, parce que le Sénat, il faudrait donc partir de sa composition. Et je pense que cette nouvelle constitution définit la quasi-majorité des choses. C'est vrai que, personnellement, je n'ai pas les éléments à ma possession aujourd'hui donc pour confronter ces éléments. Mais donc avancés. Mais cette nomination, de toutes les façons, cette nomination, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait quand même que cette opinion prenne en compte donc l'organigramme, la structuration, comme l'a défini cette nouvelle constitution. Et comme je ne l'ai pas constaté, donc moi je me dis que c'est une opinion le concerne lui seul.
D'accord. Jean-Baptiste, c'est vrai que c'est le chef de l'État qui a nommé. Et il n'y a aucune règle quand même qui est
imposée. Qui l'interdit.
Voilà, qui l'impose, qui impose même d'ailleurs au chef de l'État de ne pas nommer qui que ce soit.
Oui, peut-être mon ami Adam n'a pas du tout compris mon développement parce que.
Non, je l'ai compris, je dis. C'est pourquoi je dis c'est une.
Je n'ai jamais dit qu'il y a une disposition qui interdit à Fonia Singbe de nommer Inoussa Bouraïma à la tête.
Moi non plus, je l'ai dit, mais je vous dis.
Vous avez parlé de des
dispositions. Non, non, non.
Quand tu parlais, je me tais.
On laisse Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, allez-y.
C'est ça. Donc, je n'ai jamais dit qu'il y a un test qui interdit à Fonia Singbe de nommer Inoussa Bouraïma. Mais j'ai constaté que.
C'est moi qui pose la question.
Oui, c'est ça.
Jean-Baptiste.
Donc, c'est pour dire que j'ai fait un parallèle parce que je n'invente rien. Les déclarations de la conférence des évêques du Togo concernant les situations sociopolitiques de notre pays, tout le monde le constate que cela n'a jamais été bien digéré par les tenants du pouvoir. C'est un constat. Et le coup, c'est que Monseigneur Kodro, on a vu, quand il était aux côtés, surtout aux côtés d'Agboyome pour les dernières élections présidentielles, cela lui a valu un exil. Et c'est à l'exil qu'il est décédé. Donc, aujourd'hui, ce que nous disons dans notre article, c'est que les différents ministres, surtout de tutelle des églises, c'est le ministère de l'administration territoriale, et tous les occupants, tous les locataires de ce ministère
d'accord,
que nous avons.
Merci, merci. Je pense que même qu'on a fait le développement sur cet aspect. Et oui, on va s'intéresser maintenant à la CEDEAO, à l'AES. Et on quitte notre pays, bien sûr. On s'intéresse à la CEDEAO et à l'AES. Et Adam, c'est vrai qu'il y a le président, le nouveau président ghanéen qui a commencé une tournée dans les trois pays de l'AES. Et il a terminé cette tournée tout récemment. Et il y a une déclaration même d'ailleurs du président John Mahamat qui finalement a commencé par faire débat même d'ailleurs dans l'opinion. Hein, et c'est par rapport à cette tournée, quand il a terminé alors la tournée, il dit que c'est plutôt la CEDEAO qui doit faire le pas vers les pays de l'AES et non le contraire. Mais ça finalement, ça doit surprendre alors beaucoup de personnes puisque c'est vrai qu'il fait cette tournée sur l'initiative même d'ailleurs du président ivoirien et Alassane Ouattara.
Non, pour moi, je pense que c'est au regard d'une conclusion assez pragmatique que le nouveau président ghanéen est arrivé donc à cette conclusion, puisque après la rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara et un pris dans son baptême de pèlerin, puisque vous allez constater que les nouveaux dirigeants que nos pays de l'Afrique de l'Ouest ont connus ont été pour la plupart du temps diligentés aux côtés, naturellement, je veux parler du Sénégalais qui était diligenté aux côtés du président de la République, Sozin Nyasimbe, pour mener cette conciliation entre l'AES donc, et la CEDEAO, puisque, je le dis toujours, la règle est de pouvoir amener ces trois pays-là à rester dans cette CEDEAO. Mais je pense que l'approche que nourrit en tout cas la plupart des chefs d'État, c'est que l'AES, rester dans l'AES, ne peut pas se substituer ou peut encore, parce que les pays de l'AES peuvent faire partie de la CEDEAO, mais tout en restant également dans l'AES. Et donc je pense que ce président nourrissait l'espoir que le président John Mahama, qui est déjà connu en ce qui concerne la politique de la CEDEAO, puisse, ayant été donc dirigeant déjà du Ghana par le passé, peut véritablement donc amener, en comprendre un certain nombre d'approches, amener dans ces pays-là à pouvoir donc rejoindre en tout cas cette communauté. Comme le disait le président Alassane Ouattara, c'est toujours bon de toujours aller en 15 que d'aller à 3. Mais je pense que ce retrait, je pense que la CEDEAO continue par mener en tout cas cette politique de bon office en faveur donc de ces trois pays-là, liée donc à cette dimension de pouvoir donc les amener. Mais au-delà de tout, je pense que je parlais donc d'un pas assez pragmatique, puisque c'est pour la première fois que, en tout cas un chef d'État le dit aussi publiquement, que il faudrait quand même que la CEDEAO puisse véritablement, en tant que telle, puisque c'est vrai, John Mahama fait partie de la CEDEAO, mais en menant dans cette lutte-là, il ne l'avait pas menée au nom de la CEDEAO. Il l'avait menée, même si il était soutenu ou était donc envoyé en mission, plus ou moins par le président Alassane Ouattara. Il n'est pas allé en cette mission en tant que, en tout cas, président de la CEDEAO, mais a mené cette lutte-là au regard des relations qu'il lie. Et le président Mahama et les pays de l'AES. Mais au-delà de tout, je pense que il est temps que la CEDEAO puisse donc s'organiser également pour mener donc le pas que de pouvoir rester dans cette nomenclature singulière en envoyant donc les gens d'une manière disparate.
D'accord. Jean-Baptiste, quand on demande aujourd'hui de faire à la CEDEAO de faire le pas, est-ce que ce n'est pas qu'on dit implicitement à la CEDEAO de valider les coups d'État en son sein?
Valider les coups d'État en son sein, je crois que les coups d'État ont toujours été au rendez-vous dans les pays de la CEDEAO. Les exemples sont légion. Fondamentalement, on nous dit, on clame à qui veut l'entendre, que les coups d'État ne sont pas bons. Et quel genre de coups d'État? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est les coups d'État, on focalise. Beaucoup de présidents en exercice dans les pays de la sous-région focalisent leur attention sur les coups d'État militaires, alors qu'il y a plusieurs autres types de coups d'État qui ont lieu dans notre sous-région. Et la preuve, il y en a. L'année passée, le Togo a encore fait un coup d'État constitutionnel. C'est toujours dans la CEDEAO. Pas plus que la semaine dernière, vous voyez comment le président Bissau-Guinéen a chassé les observateurs, comment l'appelle-t-on, une mission de la CEDEAO. Voilà, ce sont des actes qu'on pose. On dit que la CEDEAO doit rester forte. Mais au même moment, on pose des actes qui fragilisent l'institution. Comment on peut expliquer cela? Au même moment, on dit la CEDEAO doit rester forte. C'est les actes sont là, palpables. Si réellement la CEDEAO doit rester forte, le coup d'État qui a eu lieu en avril et mai dernier au Togo, la CEDEAO devait lever le ton pour dire non à ce coup d'État constitutionnel. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est de rien n'était. On fait croire que le coup d'État constitutionnel là est consommé au Togo, qui fait partie intégrante de la CEDEAO. Donc voilà les actes qui sont là, qui fragilisent l'institution. Donc, en clair, en envoyant le président ghanéen vers ces pays de l'AES, déjà, c'est une façon sibylline de faire croire que la CEDEAO va d'échec en échec. Parce que, vous savez, les autres chefs d'État, surtout l'Ivoirien, pourquoi lui-même il n'a pas pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer ces gens-là? Il n'est pas en bonne posture. C'est ce que ça veut dire. Il n'est pas en bonne posture. C'est pourquoi il s'est référé à son homologue ghanéen.
D'accord.
Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO, quoi qu'on dise, tout le monde veut qu'elle reste une institution forte, mais chaque jour que Dieu fait, les dirigeants prennent le contre-pied de cette CEDEAO forte que nous aspirons.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Merci pour le débat. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Et nous passons également par cette occasion pour présenter toutes nos condoléances quand même à la famille de Pascal Adoko et également la famille biologique et la famille politique, bien sûr, et à toutes les classes politiques alors de justement de l'opposition et toutes nos condoléances. Et maintenant, nous allons nous ouvrir à vous. Vous pouvez nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous écrire également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô? Alors,
oui,
je vous considère.
Bonjour, nous vous considérons aussi.
Alors, comment vous allez?
Ça va, Patrick. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, c'est toujours le commandant.
Voilà.
D'accord.
Je salue les autres journalistes aussi. Hein.
D'accord.
Bon, j'ai une petite question, parce que ça semble un peu flou là. Je ne sais pas si vous, Pascal, ou bien tes confrères pourront quand même laisser un tout petit peu concernant les sénateurs. J'aimerais comprendre, les sénateurs élus et nommés, est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire, les sénateurs qu'on a votés, et ceux nommés par le chef de l'État, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux vagues?
Non, mais c'est... Oui, mais Patrick, là, pour répondre même d'ailleurs, ils sont tous des sénateurs, il n'y a pas de différence.
Bon, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, parce que là-bas, on n'appelle pas l'émission d'ADD hier soir. C'est pourquoi je pose cette question-là. Parce qu'il y a un sénateur qui semble dire un peu le contraire, là, quoi. C'est pourquoi j'ai voulu comprendre là-bas. Si les sénateurs nommés, et ce fauteuil-là, est-ce qu'il y a une vague qui pèse plus que l'autre? C'est ça.
D'accord, je poserai certainement la question à mes confrères. Et je pense quand même qu'ils vont aussi donner la réponse. Oui, Patrick, il est parti.
Alors,
oui, bonjour, madame Essie.
Bonjour.
Bonjour.
Mon frère là-bas.
Oui, j'espère que vous allez bien.
Hey, Pascal, je vais te dire que je suis pratiquement la seule maman qui essaie d'animer ton émission. Alors... Tu dois me laisser terminer normalement.
Hein. Mais je vous laisse toujours terminer, madame.
Ici. Oui, mais tu ne me laisses pas souvent.
Oui, mais parce que
tu m'arraches le micro, alors que voilà.
Maintenant, allez-y,
donc,
madame.
Vous devez parler de la CEDEAO, la fameuse. La fameuse, elle existe de nom, hein, d'après tous les coups fourrés qu'elle a perpétrés au Togo, là, seulement, seul au Togo, quoi, tous les coups fourrés, hein, dès qu'on est en fin de mandat, donc, on s'accuse, elle ne dit rien, il y a eu des coups terribles, 90, 2002, tout ça là, la tragédie de 2005, 2018, non, ça n'existe plus, et les gens servent dessus seulement pour nous brûler, quoi, avec leurs trucs. L'opposition, moi, je tire chapeau à l'opposition, bien que elle s'est organisée en 2020 pour charcuter et calomnier un seul leader parmi les 120, là, et on en est arrivé là, hein. C'est le coup de 2020 qui nous a amenés ici, là, comme ça, là où on est. C'est le coup de 2020, et puis l'on fait comme ça, quoi, hein, laissant le régime qui nous torture, là. Et je puis, je vais dire RIP à Pascal. Pascal, on a été au lycée ensemble, on a même fait la même classe. Et j'ai été peiné d'apprendre sa mort aujourd'hui. Je ne me rappelle plus de ce que vous avez. Aujourd'hui, tu m'as laissé.
D'accord. Merci madame, ici, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, votre nom c'est?
C'est Raymond.
Raymond, vous nous appelez de quel quartier?
À Gouéanomé.
À Gouéanomé, allez-y.
Ce matin, je voudrais d'abord dire merci et puis faire un cri de cœur ou un cri de gueule par rapport à la gendarmerie, la direction de la gendarmerie, si au Carrefour de Bojona. Nous avons des feux tricolores qui venant de Léo 2000 de fonction d'Afrique. Et les gendarmes se mettent dans le village au niveau du feu de la pharmacie. Ils sont presque cachés. Et lorsque tu arrives, le feu passe du vert au rouge. Il n'y a pas de signalisation pour que tu puisses ralentir et t'arrêter. Et lorsque tu es pris par surprise par le feu, tu ne peux pas t'arrêter parce que ça fera un arrêt plus et ceux qui sont derrière vont te mater. Et lorsque tu passes, on te stoppe pour dire que tu as violé le feu. Je ne suis pas contre le travail qu'ils font, mais depuis hier, les feux ne fonctionnent pas. Quand ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas là pour réguler. Quand ça fonctionne et ça fonctionne pas bien, ils sont là pour arrêter. Le second, c'est pour interpeller la mairie au niveau de Toti. Au niveau de la pharmacie Nation, il y a eu des activités qui ont été faites par la fouille. Et ils sont laissés ça comme ça, ils sont juste encerclés avec des pavés. Et ça crée des accidents, les gens tombent, les voitures rentrent dedans, c'est pas du tout normal.
D'accord.
Que chacun fasse son travail, et comme ça, nous serons tous heureux chaque jour que nous rentrerons.
D'accord, merci beaucoup, Raymond, pour votre intervention. Merci. Bonjour, les amis. Problème de l'opposition, j'aimerais dire à mon ami que ce n'est pas une question de l'immaturité. 35 ans de lutte avec le même régime, l'opposition a le couille, mais son problème est manque de stratégie et de plan d'action. Elles n'ont qu'à laisser la lutte à la société civile. Sans la société civile au devant, il sera très difficile pour que les choses changent un jour dans ce pays. Bonne émission, c'est monsieur Nyamaku qui nous écrit. Allô? Oui, bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, salut les studios.
Oui, nous saluons.
Bon, mais hier, je parlais, c'est pas les gens qui débattaient, c'est à eux que je parlais, c'est les gens de juste passé.
Oui, mais, mais Basile,
oui.
Si, justement, elle lundi, vous venez parler alors d'une émission de jeudi, vous ne voyez pas qu'il y a un problème?
Oui, il y a un problème vraiment.
Ah, mais justement, c'est de ça qu'il s'agit, Basile.
Ok. Bon, ce que moi je veux dire pour aujourd'hui, il n'y a que celui qui ne veut pas dire la vérité, qui fait l'opposition, que l'opposition ne fait pas ceci, l'opposition ne fait pas cela, ainsi de suite. Mais maintenant, quand il dit ça, celui qui et il pense qu'il fait bien, il y a 60 ans, pourquoi est-ce que nous, on ne mange pas une seule fois par jour? C'est ce que moi, je me pose toujours comme question, mais je n'ai jamais eu de réponse. On vient, on dit que l'opposition a fait ceci, l'opposition a fait cela, mais
ça veut dire que c'est l'opposition qui fait mal. Mais celui qui est là, il y a 60 ans, mais nous, on n'arrive même pas à manger une seule fois par jour. Aujourd'hui, ils sont là-bas qu'on a créé le Sénat. Le Sénat, là, c'est les gens qui ont déjà mangé. Ceux qui n'ont jamais mangé, on ne veut jamais leur donner à manger. Mais on les rassemble là-bas, ils seront toujours ensemble là-bas. Et on m'a dit qu'on n'est pas dans le sujet. Moi, je suis toujours dans le sujet. Merci à vous.
D'accord, merci Basile. Oui. Bonjour, juridiquement, une personne élue et nommée n'ont pas les mêmes prérogatives, donc les sénateurs nommés sont différents de ceux élus. Un député est élu et le ministre nommé, c'est Ibrahim qui nous écrit. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
C'est monsieur?
C'est monsieur Bessan.
Monsieur Bessan.
J'appelle de Badago.
Oui, allez-y.
Je vais intervenir sur l'affaire de CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas avoir pression sur ses membres, puisque les chefs d'État qui sont là sont mal élus. Ils sont mal élus. Et ceux qui sont là ne sont pas de bons exemples. On arrête les gens, on les jette en prison, sans procès, et ils sont là. C'est pourquoi ils n'ont pas de moyens de pression sur ceux qui ont fait coup d'État. Et actuellement, ils sont deux au mieux. Ils doivent accepter la laisse. Merci.
Merci, Besson, pour votre intervention 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Pélé?
Oui, c'est Pélé.
D'accord, allez-y.
Oui. Je voudrais dire tout à l'heure, Madame Kriata, que c'est en 2020 que tout a commencé. Je pense que c'est à partir de 2020 que ce régime a compris qu'il faut enlever l'indirection. Ce n'est pas bon. Parce que la résistance est toujours. Donc, en réalité, nous devons être aux directions présidentielles actuellement pour élire un autre président. Voilà, nous sommes toujours dans cette résistance-là. Donc, c'est pour prouver que ce qui s'est passé en 2020, c'est du jamais vu. Donc, c'est une résistance que les gens n'ont pas compris et qui a fait bouger les lignes au niveau du régime RPT Unir d'enlever les directions présidentielles parce qu'ils sont illégitimes. Devant le peuple togolais, est-ce que la DNK qu'il avait prouvé qu'ils sont illégitimes devant le peuple togolais? Merci.
Merci Pélé pour votre intervention. Bonjour Pascal, bonjour le plateau, c'est Modeste de Dabara Kondi. Lorsqu'on n'a jamais donné la vérité des unes, lorsque la liberté de manifester est bafouée, je ne vois en quoi on pourra dire que c'est l'ego ou l'immaturité des opposants qui sont à la base alors de non-attenance dans ce pays. C'est Modeste depuis Dabara Kondi. Allô?
Bonjour, mon collègue président.
Bonjour, comment vous allez?
Merci bien.
Votre nom, c'est?
C'est Dodi Daravé.
Ah, monsieur Dodi, depuis Daravé, allez-y.
Je remercie les confrères qui sont avec vous.
Monsieur Dodi,
oui.
Vous voudrez bien parler un peu plus fort?
Ah, ok, je dis que je remercie vos collègues qui sont avec vous au plateau. Et je suis donc dit ce qu'ils ont dit. Mais le reste vient de la population togolaise. Hein. L'opposition n'a rien fait. C'est nous les peuples. Ça se voit comme on est fatigué, mais nous sommes enfamés. Mais on ne veut pas dire que nous sommes enfamés. On ne veut pas réagir. Qu'est-ce que l'opposition lui a fait? Quel leader qui va appeler de faire ceci et ceci? Et quel Togolais qui va sortir? Pour dire que vous sortez, on va t'arrêter. Le pays n'est pas libre. Tu t'es coincé par le pouvoir. Oh, je vous remercie.
Merci beaucoup, Dodi, pour votre intervention. Salut Canal FM. Pour ma part, j'aimerais intervenir sur le Sénat. Presque tous les sénateurs qui sont élus ont tous, d'une manière ou d'une autre, servi ce pays. La vie leur donne une fois encore la chance de travailler pour le pays. Ils n'ont qu'à alors travailler pour le pays. Ils n'ont qu'à prendre le destin de ce pays, car ils n'auront plus d'excuses. Allô?
Allô, s'il te plaît, deux minutes, donc j'ai un peu de forfait encore.
Madame,
est-ce que vous avez des nouvelles de Abiy Alpha?
Oui, le confrère Abiy Alpha va très bien.
Il est là, il est au Togo.
Il est au Togo, il est au pays.
Ah d'accord, je lui fais un diacé.
D'accord.
Un diacé, voilà. Sénateur. Je ne sais pas, est-ce que ils ont nié, ils sont là depuis plus de 60 ans, ils ont nié dans sénateur, tout ça là. Les crimes économiques de sang là. C'est-à-dire, ils sont blanchis dedans, dans l'histoire de cette histoire de sénateur. Est-ce que je me demande quoi? Il y a eu beaucoup de crimes économiques et de sang durant les 60 ans, puisqu'ils ne veulent pas terminer. Pour la CEDEAO aussi, c'est bourré que de petits militaires constitutionnels. Donc, je connais sérieux dedans. Merci.
D'accord, merci, Madame Essie, 90-86-35-35. On a encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission.
Oui, parce que je n'ai jamais dit que l'opposition a fait quelque chose, que ça ne marche pas au Togo. Hein. C'est Basile qui parle.
Basile.
Vous avez lu quelque chose, c'est parce qu'il n'est pas bien attendu. Je n'ai pas dit ça.
Basile, je ne l'ai pas dit non plus.
Ah,
Basile.
D'accord, moi, c'est pas bon.
Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour, cher Pascal. Je reçois ce dernier auditeur avant, quand même, de dire le message. Allô, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, comment vous allez?
Ça va, par la grâce de Dieu. Et chez vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu.
Ok.
Il semble que votre
radio... S'il vous plaît.
Oui, oui.
Moi aussi, je vais dire quelque chose dans l'émission.
D'accord. Votre nom, c'est...
Ok, merci. Que Dieu vous bénisse.
Oui, votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, c'est...
Si, chaque jour, on dit que l'opposition, c'est l'opposition qui fait. C'est l'opposition qui fait. Mais les gens ne disent pas que c'est le régime qui fait attabler les opposants. C'est le régime. Par exemple, nous-mêmes, les populations, nous disons que c'est les deux partis qui ne veulent pas siéger. Mais ils font le programme d'aller à les élections locales à venir. Mais les gens critiquent encore. Ces mêmes populations qui sont déjà en souffrance, ils critiquent encore avec les opposants là, les partis là. Dans quel pays que une seule partie, par exemple, une seule partie, RPT unie, peut nous conduire jusqu'à... Il n'aura pas d'opposants en face de lui. Donc, moi, ça me fait mal qu'on dit que chaque jour, que c'est l'opposition. Or, c'est le régime qui a fait ce système pour affaiblir l'opposant.
D'accord, merci. Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas eu votre nom et également d'où vous nous appelez. Et merci de nous avoir appelé quand même. Alors, je lis cette intervention d'un autre auditeur. Bonjour, cher Pascal et à tous vos confrères. Je ne pense pas à une immaturité politique. S'il y a un coup d'État constitutionnel, c'est la Cour constitutionnelle protégée par l'armée républicaine qui se saisit et rétablit l'ordre. Exemple du Sénégal tout récemment. Merci, c'est Didier depuis Vakbosito. Alors, chers confrères, nous avons écouté les uns et les autres se prononcer hein, sur l'actualité, c'est bien cela. Je lis encore une dernière réaction d'un auditeur, nomination d'un imam. Un imam au Sénat pose la question de savoir si Bariga aurait également accepté ce poste. Je ne pense pas, car pour faire sa part, il a procédé autrement. Cet imam est choisi juste pour contrer les soulèvements futurs, puisque les musulmans, pour ne pas dire les cotocolis, sont très majoritaires et efficaces dans les manifestations, comme on l'a vu en 2017 avec Tipi. Et le régime en place montre sa frilosité. C'est Maglibé qui nous écoute depuis la Belgique. Chers confrères, nous sommes de retour. On revient en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission. Adam, vous avez écouté les uns et les autres réactions?
Donc, je pense que la première réaction, je pense, en réponse est à celui qui voulait savoir la différence entre les sénateurs nommés et les sénateurs élus.
Et c'est Patrick.
Oui, je pense que vous avez si bien fait de lui répondre parce que. En tout cas, sur l'approche, les sénateurs sont des sénateurs. C'est nous, la Constitution togolaise, qui prévoit que, en tout cas, une proportion des sénateurs soit nommée par le chef de l'État. Et malheureusement, il y a une polémique depuis sur la toile qui s'est donc invitée, où les gens se disent, parce que ça se passe ailleurs, pourquoi le Togo doit être différent? Moi, je pense que quelque part, les valeurs que porte, en tout cas, tout ce qui est démocratie haute, je crois que nos pays africains, hein, en dépit de ces mouvements panafricanistes que nous lisons, nous pouvons également être précurseurs d'une nouvelle approche. L'essentiel que cela puisse équilibrer les institutions et permet véritablement une vitalité démocratique. Donc, je pense que la question ne se pose pas. Il faudrait quand même que nous également, nous commençons déjà. Parce que l'approche est toujours venue, que qu'est-ce que nous inventons, qu'est-ce qu'on arrive à faire. On peut être aussi précurseur d'une valeur démocratique.
D'accord. Oui, Adam, je reste toujours avec vous pour votre note de fin d'émission.
Non, bon, la note, c'est de saluer déjà cette nouvelle institution qui pose les balles de cette nouvelle république. Et je pense que tout semble aller pour le bien. Et ça a été donc une découverte. Et justement, je pense que nous apprécions à sa juste valeur. Et moi, je salue. Et donc, je donne cette note de 8 sur 10 à ces nouveaux sénateurs qui ont fait... qui ont fait la semaine dernière
cette session de droit.
De droit, oui.
Mais c'est vrai, il faudra quand même les voir en action avant. Quand
mais
même
ça va arriver. Noter. Non,
d'accord,
mais.
D'accord, ok.
Déjà, ça s'est bien passé, on les note d'accord. Et on verra la suite.
Ok, on verra la suite. Oui, Jean-Baptiste
Oui, merci Pascal. Je crois que je reviens un peu aussi sur la question de Patrick qui posait la question concernant la différence entre les sénateurs nommés et élus. La différence, il n'y a aucune différence, sauf que. Certains sont nommés, certains sont élus. C'est la seule différence.
Et ils sont tous sénateurs.
Ils sont tous, c'est ça. Ils sont tous sénateurs au même pied d'égalité. Hein, en termes de traitement, peut-être pécunier ou autre, là, je crois qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Leur durée, la durée de leur mandat, c'est 6 ans renouvelables. Et un point très. Donc, c'est ça. Sinon, au-delà, il n'y a pas autre considération. Puisque la question, bon, peut-être, je ne sais pas ce que nos confrères ont dit hier, puisqu'ils parlaient de l'émission d'hier chez notre sœur d'ADD. Je n'ai pas écouté l'émission, mais il y a des spéculations qui font croire que les sénateurs qui sont nommés...
Par parce qu'il y a le sénateur Abbas Kaboua qui a été reçu dans l'émission. Je pense que peut-être après l'avoir écouté, c'est pour cela quand même qu'il pose la question.
Certains disent qu'ils sont nommés à vie. Bon, je crois que ça, ce n'est pas vrai. Ce sont des spéculations. Oh, sinon,
rapidement, allez-y.
C'est ça. Et au-delà de ça, je vais parler. Beaucoup ont interpellé le fait que, entre temps, j'ai parlé de l'immaturité de l'opposition. Je me suis bel et bien expliqué pourquoi j'ai dit le mot là. J'ai donné beaucoup de raisons pour sous-tendre cela. Je n'ai pas donné le mot en l'air.
D'accord.
C'est ça.
Ok. Oui, mais puisque notre temps est déjà. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atissot, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi du journal en ligne corpsdiplomatique.news.tg, bien sûr. Merci beaucoup à Adam Adronou d'être passé dans cette émission. Adam, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Thomas Itek aussi de la TV était à la mise en onde. Jérôme Dakout a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de cette émission Colombe de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.